Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 16 mai 2026, les archives de l'architecte, épisode 6, récapitulatif de l'actualité financière. On part du côté des marchés, sont-ils trop optimistes, avec des indices US encore inscrits sur des records cette semaine, portés par le Nasdaq et S&P 500, fortement soutenus, comme vous le savez, par les méga caps IA, semi-conducteurs, cloud et infra, bien que sur vendredi, ça a légèrement ralenti et on va voir dans un instant pourquoi. Nvidia approche désormais, accrochez-vous bien, 6 000 milliards de capitalisation. Les marchés donc qui continuent de payer très cher la thématique et révolution de l'IA. La rencontre géopolitique au sommet entre les États-Unis et la Chine, Trump, Xi Jinping, les deux superpuissances se sont rencontrées cette semaine du côté de la Chine en particulier, en grande pompe avec notamment le déplacement de CEO tels que Elon Musk et Yuan Zhenseng, donc le CEO actuel de Nvidia. Les marchés en retiennent une volonté d'éviter une nouvelle guerre commerciale, des discussions apaisées autour des semi-conducteurs, terres rares et possible assouplissement partiel des flux commerciaux. Donc on va voir autour des tarifs comment ça se passe. Un climat de détente lors des discussions qui ont permis de soutenir les actifs risqués mondiaux, en tout cas temporairement. Malgré tout, en sous-jacent, ne nous y trompons pas, la rivalité technologique US-Chine reste intacte, notamment un retour de la course de l'IA et surtout la super IA. Réexplosion des taux obligataires, et c'est le sujet du jour, avec des rendements souverains qui restent extrêmement tendus. Le Treasury 10 ans aux États-Unis à 4,5%, les 20 et 30 ans supérieurs à 5%, mais ça n'est pas qu'aux États-Unis. On a également du côté de l'Allemagne, du côté de l'Angleterre, la France, n'en parlons pas. Le Japon progresse aussi très rapidement. Attention au Yen Carry Trade Bis. Les marchés qui attendent malgré tout pour la suite, et on l'a vu la semaine dernière, une inflation persistante, voire qui commence très largement à rebondir. Et ça, peu importe comment on prend le truc, du moment qu'on a une inflation qui repart très fortement, les banques centrales vont être un peu prises à nouveau entre le marteau et l'enclume à se dire « Ok, les marchés sont en turbo-euphorie du côté de l'IA, mais le reste de l'économie, elle est en train de se gripper. » Des déficits publics massifs sont attendus, davantage d'émissions obligataires et une Fed moins accommodante qu'espérée, avec notamment la nomination de Kevin Warsh, et on va voir quelle va être donc sa propre politique interne. Donc quelles sont les conséquences autour de cette pression que vont appliquer les taux longs, que ce soit le 10 ans, le 20 ans, le 30 ans? Les États vont payer beaucoup plus cher leurs dettes, l'immobilier reste sous pression, les valorisations des actions sont plus fragiles, le coût du capital augmente partout d'un point de vue économique général, et le paradoxe actuel, comme vous l'aurez compris, l'IA tire tout vers le haut malgré la hausse des taux longs. Donc par exemple, du côté de l'immobilier, eh bien, ça pourrait très bien se retranscrire par des mensualités qui augmentent, une capacité d'achat en baisse, le prix de l'immobilier qui restera sous pression, notamment du côté des États-Unis, des transactions qui ralentissent et les promoteurs qui en souffrent. Le taux hypothécaire reste élevé aux États-Unis, plus de 6%, ce qui pèse déjà sur les ventes immobilières. Les dettes de tous les pays impactés, bien entendu, n'en parlons pas, puisque même du côté français, j'ai vu pas mal de postes passer qui commencent à s'en inquiéter à partir du moment où on rentre dans des fourchettes comme ça qui sont comprises autour de 4 à 5 points. Côté actions, les valorisations restent sous pression. Et les plus touchés en ligne de mire, comme vous l'aurez compris, c'est un peu des vases communicants, ça pourrait être dans les prochains trimestres, eh bien, cette bulle, pas bulle, peu importe comment on la nomme du côté de l'IA, tout ce qui est lié à la tech, le luxe, on l'a déjà vu avec les LVMH et consorts qui vraiment ont pris du plomb dans l'aile ces derniers trimestres, mais également le private equity, tandis qu'on aurait peut-être un tampon qui se ferait du côté bancaire, énergétique, value, les entreprises avec du cash flow et notamment celles qui investissent pas mal en capex et qui ont les reins solides et les sociétés qui sont peu endettées. Donc attention dans les prochains trimestres en effet aux entreprises et au refinancement qui sera plus douloureux du fait de ces taux longs, puisque quelques années en arrière, une société qui empruntait à 2-3% aujourd'hui pour se refinancer devra emprunter à 5 voire 7% selon sa qualité de crédit et du côté bancaire, assureur, etc. Pareil, ça risque de coincer un petit peu avec des mouvements de plus en plus erratiques et violents sur les devises. On a commencé à avoir un semblant de réappréciation du côté du dollar, bien que sous l'ère Trump, bien entendu, le but est de garder un dollar fortement affaibli. Donc en conclusion à tout ça, par rapport à ces obligations, c'est tout simplement un resserrement financier et ça rend l'argent plus cher avec une mis sous pression des États qui sont méga endettés, comme vous le savez aujourd'hui, également l'immobilier, les entreprises fragilisées. Et depuis le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont été tenues sous perfusion, mais qui sont encore et toujours des entreprises un peu fantômes. Et là, on risque de voir de nouveau le deuxième effet qui se coule de tout ça. Les chiffres, l'inflation avec cette peur d'accélération, avec des chiffres, et on l'avait vu la semaine dernière, qui étaient au-dessus de ceux attendus. Donc attention également à cette inflation qui va avoir un impact relativement important pour les prochains mois. Le tout reste porté par l'énergie, mais pas que. Les biens à la consommation également sont en train de prendre plusieurs points en seulement quelques semaines. Et ça, pour le consommateur final, c'est vous et nous. Et on aura probablement des problématiques d'inflation de nouveau qui vont revenir. Et il faudra bien entendu encore et toujours observer les tensions énergétiques liées au pétrole et au détroit d'Ormuz, puisqu'on a toujours un baril autour de 100 $. Et ça n'est pas rien, puisque ça aussi, tant que tout ça n'est pas réglé, ça aura des implications qui vont se compter en trimestre. Jérôme Powell quitte la Fed, mais reste malgré tout au board, donc il aura toujours son petit mot à dire dans les prochains trimestres et années. On va voir là aussi, sous l'impulsion de Kevin Warch, comment ça va se passer avec des enjeux politiques et monétaires qui sont énormes en 2026. Risque de devoir réaugmenter les taux si l'inflation repart à la hausse. Le marché obligataire très nerveux malgré la croissance qui ralentit multizone. Attention lors de cette succession à ne pas déroger à la souveraineté de la Fed et aux risques politiques, puisque Trump pèsera lourd dans cette opération et va tenter dans tous les cas d'influencer un petit peu ce que va faire la Fed. Or, VS Bitcoin, est-ce qu'on a eu une rotation partielle après son énorme rallye? L'or marque une pause. En parallèle, le BTC reste à peu près solide sur ses appuis autour de la zone des 80 000 $. Les ETF spot continuent d'attirer des flux institutionnels, ce qui est une bonne nouvelle, puisque le jour où on aura de nouveau un peu plus le mojo du côté crypto, eh bien, ça permettra comme ça d'ouvrir ces vannes-là en priorité. Les actions liées au domaine progressent, Coinbase, Minière, MicroStrategy, mais pas que, on en parle régulièrement sur la chaîne. Arbitrage du marché, donc entre vrai or physique et or numérique, bien que aujourd'hui, je pense qu'on l'a vu hein, ces dernières années, quand il y a des conflits, quand il y a des doutes géopolitiques, quand il y a des tensions d'un point de vue mondial, eh bien, c'est l'or physique finalement qui en récolte tous les lauriers. En guise d'introduction de l'analyse technique, je voulais également vous faire un petit retour sur ce qui s'est déroulé ces 100 dernières années du côté des marchés financiers, mais d'un point de vue économique parlant, à partir du moment où tout monte sauf l'économie réelle qui, elle, est en train, comme on peut le voir, de ralentir, voire de se gripper. C'est ce qu'on appelle en substance la fameuse stagflation et potentiellement, si jamais vraiment ça se gâtait, on pourrait avoir une récession. Et c'est là où, au final, on a un peu ce paradoxe et cette schizophrénie de marché aujourd'hui, avec une IA qui nous laisse entreapercevoir un futur complètement radieux, avec une productivité complètement folle, 24/7, des robots autonomes, des agents IA et tout qui produit comme on n'a jamais pu le produire nous en tant qu'humains. Donc on a des gains de productivité monstres, une croissance qui pourrait être soutenue par tout ça, quand bien même on met énormément de vrais gens au chômage quelque part, ou alors ils auront des rôles de superviseurs, etc., whatever. Et d'un autre côté, eh bien pour l'instant, dans cette période transitoire où on ne sait pas trop où on va et jusqu'où ça peut aller en termes d'implication, nous avons effectivement la tech et l'IA qui caracolent en tête de file et qui emportent des Nvidia et consorts à des 6 000 milliards de capitalisation. D'ailleurs, si ça se trouve, d'ici à 2030, on aura très largement les premières sociétés valorisées 10 000 milliards. Donc le parallèle à faire par rapport à ce qui s'est déroulé sur les 100 dernières années, par exemple, c'est dans les années 60-70. Quand on était exactement dans la même config qu'à aujourd'hui, eh bien, on a perdu par la suite, entre 73 et 74, environ 34% sur les indices. Ça parle même de 43% en réel. On peut faire également allusion à la bulle dot-com 1999-2000, où on avait eu, pareil, la tech qui explosait alors que les taux longs US étaient en train de remonter également. Et voilà, on connaît la suite, hein, moins 78% sur le Nasdaq. Pareillement, dans une moindre mesure, 2022, avec ce petit bear market qu'on avait eu entre deux et la tech qui avait pas mal mal chuté. Et donc, le risque principal aujourd'hui, c'est si les taux longs montent parce que la croissance accélère, c'est-à-dire entre grands guillemets pour des bonnes raisons, les actions peuvent tenir. Mais s'ils montent parce que les déficits, l'inflation ou la prime de risque montent pendant que l'économie, elle, ralentit, c'est beaucoup plus dangereux puisque le crédit est plus cher, l'immobilier reste sous pression, les États sont contraints, on voit des taux qui sont complètement mirobolants. On est en train de revenir parfois à des taux soit des années 2000, soit des années 70-80, pour vous situer un petit peu le truc, en tout cas dans la progression qu'on est en train d'en faire. Ce qui rend mécaniquement aussi les valorisations du côté des actions, et notamment américaines, peut-être un peu plus fragiles, un peu plus fictives. Et à tout moment, si jamais dans cette euphorie qui caractérise actuellement les marchés, on a un quelconque retournement que ce soit, eh bien les gens vont se rendre compte qu'on est peut-être parti un petit peu trop vite, la fleur au fusil. Donc c'est pour ça aussi, je suppose, qu'aujourd'hui, pour bétonner un fonds de portefeuille, il y en a beaucoup qui préfèrent avoir un petit peu d'or, or physique. Je parle ce coup-ci, en plus potentiellement de l'or numérique qui n'a pas tout à fait ses preuves jusqu'ici. On parle du Bitcoin. Le VIX 18,42 en progression de 7%, mais autour de la zone des 18,20, il n'y a pas de quoi s'affoler. Par contre, en effet, hein, quand on regarde les taux, que ce soit les taux courts ou les taux longs, ils sont tous en train de pump pour les États-Unis, le 5 ans, le 10 ans, qui s'approche des 4,6. On est dans un triangle rectangle ascendant ici d'un point de vue technique. Si ça passe, ça risque de faire mal. L'UK Oil qui a clôturé la semaine à 110$ le baril. Le 20 ans, 5,14 pour les States, 5,12 pour le 30 ans. Pareil sur le pas de tir, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça donne rien de ragoûtant quand on voit comme ça les taux qui s'apprêtent à délivrer. On préférerait voir ceci se casser la gueule, avoir une économie de nouveau entre 0 et 2% grand maximum et tout cet argent qui coûte pas cher se répandre dans les marchés. Or, pour l'instant, on n'en est pas du tout là et c'est caractérisé par un dollar qui, cette semaine, est repassé de 97,98 à 99,2. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais on voit que cette box est en train de consolider depuis pas mal de temps. Et ça, c'est quelque chose qui, si ça se met à pump, eh bien, dans un premier temps, on l'a vu sur le WPEA, le CW8, on peut avoir pour les cotations en euros un petit rattrapage et c'est plutôt cool de voir ça. Mais par contre, ça va avoir des conséquences pour le reste et notamment la cotation des actions aux États-Unis. Le Nasdaq qui clôture la semaine léger dans le rouge, moins 50, 29 125. Est-ce que c'est la première bougie de ralentissement après 6 semaines de hausse consécutive? Eh bien voilà, l'US Oil est autour de 101$ le baril. Côté européen, c'est pas fifou pour l'Eurostoxx 600 ni le 50. On va très certainement revenir quelque part entre 5005 et 5645 où nous attend la moyenne mobile 50 semaines. Le gold, pareil, est vendu pour l'instant de 40 en recul, 4540$ l'once. Peut-être un retour à la moyenne mobile 50 qui se trouve à 4160$ l'once. On recule 2-3 fois plus du côté du silver qui nous a fait une bougie hebdo assez moche. On est à 90$, on clôture à 76 pour l'hebdo. Pareil, on a un bas de range actuel autour de 64. Moyenne mobile 50 hebdo à 60$. Et enfin, la zone de sortie qui était autour de 48$ pour le silver. Le crypto total, 2600 milliards pour les cryptos avec le retest de ce W ici. Pour l'instant, c'est de l'analyse technique basique. Comme je vous disais la dernière fois, et c'est le cas pour bon nombre d'altcoins, etc., on a effectivement une contraction qui est en train de se faire entre la moyenne mobile 200 qui va remonter doucement mais sûrement, la 50 qui redescend par le nord et qui va faire office de barrage, et on va faire un ping-pong en fait dans toute cette zone jusqu'à avoir une sortie de contraction. On espère tous, bien entendu, ne pas aller en dessous des 2000-2100 milliards qui composent à peu près les 60 000 du côté de Bitcoin, mais il ne faut pas non plus prendre pour acquis qu'à partir de là où nous en sommes, eh bien, le point bas a été trouvé. C'est une possibilité, on a touché sur le crypto total la moyenne mobile 200 et on peut considérer que désormais, avec des institutionnels à la table, c'est une moyenne mobile qui aura son intérêt d'un point de vue de la spéculation. Et d'un autre côté, on a vu à quel point les bear markets passés du côté crypto n'avait ni queue ni tête en termes finalement de rationalité. Donc je vous invite bien entendu à considérer dans un coin de votre tête que le bear market n'est pas terminé, tout en se disant qu'on avait déjà perdu une bonne 50aine de %, donc ça n'est pas rien. Côté Bitcoin, c'est toujours la même musique, donc pareillement on pourrait revenir même s'appuyer légèrement plus bas autour de 75-76 sans remettre en considération eh bien, ce double creux qui s'est formé ici. La moyenne mobile 200 aujourd'hui est à 61 109, la moyenne moyenne mobile 50 en haut est à 94 650. Donc pareillement, on va contracter et faire le ping-pong entre ces deux zones jusqu'à en sortir dans un sens ou dans l'autre. Ether toujours pas mal dégradé, il a buté 2-3 semaines d'affilée sur la moyenne mobile 200 qui est bien alignée, bien à plat à 2467. On a la 50 à 3074 et ça serait pas mal de pas reperdre de nouveau cette zone des 2100-2200, donc on va dire 2150. Vous connaissez un peu vos classiques pour Ethereum depuis le temps en termes de zone. On recule pas mal pour tout ce qui est minière, société crypto, etc. Circle moins 8, on a SBET à moins 9, on avait Hive pareil, quasi moins 10, Iron, Coinbase sous les 200$, pareil, la bougie hebdomadaire tente de se faire la malle 222 et immédiatement c'est vendu. En tout cas, pour l'instant, ça ne passe pas, mais le tout, peu importe où l'on regarde, que ça soit Bitcoin ou les autres, en termes de société, etc., à chaque fois, on a des oscillateurs qui sont déjà reset et on est au contact du travail de la moyenne mobile 200. Donc, si continuité du bear market il y a, c'est jusqu'où, finalement. On a Take-Two qui nous a imprimé une bougie du Seigneur cette semaine. On est passé de 220 à 246 pour une stabilisation en fin de semaine à 242. Donc, on a la spéculation de l'arrivée de GTA 6, des trailers, des précommandes, etc. On a un ATH à venir chercher à 263, 264 et par la suite on va voir donc depuis cette annonce qui avait été faite en mai 2023 alors même que l'action était à 122-123$ une fois qu'on rentrera en découverte de prix ce que ça pourra donner pour Take-Two. Microsoft également, toujours en construction de points bas, on a quand même depuis un bon trimestre ici énormément de titres qui sont échangés. Alors la plupart ont préféré Google à Microsoft avec Alphabet qui s'est apprécié dans des proportions majeures. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas un rattrapage à faire entre guillemets du côté de Microsoft, un peu version AMD face à Nvidia? En tout cas pour du long terme, quand on paye une société Super 7 proche de sa moyenne mobile 200 hebdo, je suppose avec un RSI qui est venu autour de fin mars 2026 largement survendu, et bien voilà, ça peut être une zone d'entrée qui est pas si dégueulasse que ça pour du long terme. Côté actions françaises, les plus grosses contre-performances ont été du côté de Eramet et ST Microelectronics qui recule en fin de semaine de 4 points, après une progression sur 2 mois de temps où il est passé de 18€ à quasi 55-56€. Donc on voit qu'on n'est pas très très loin de l'ATH des années 2000. C'est marrant de voir que finalement c'est là où ça commence un petit peu à coincer pour pas mal d'actions, hormis les actions américaines qui sont déjà en découverte de prix, mais les autres vont revenir visiter un petit peu ce qui s'était passé dans les années 2000 et c'est là où on va voir qui fait quoi, le tout avec un RSI qui est autour de 88-89, donc très certainement que beaucoup vont alléger entre les 50 et les 70-75€ que constitue l'ATH aujourd'hui pour cette action de ST Microelectronics. Le BNB qui garde sa force relative face à la première crypto-monnaie du marché, BNB BTC, c'est loin d'être moche au cours du bear market, donc quand on observe face au dollar 662, pareil, on est sous une zone de polarité importante, il faut franchir les 700 pour allier dans un premier temps la moyenne mobile 50 à 800 et on a un ATH pour BNB aujourd'hui proche des 1400$, 1379. Les oscillateurs sont complètement reset, donc peut-être qu'il y a quelque chose à surveiller de ce côté-là. Nervosité du côté d'Hyperliquid malgré de très bonnes nouvelles et notamment pour le stablecoin USDH, ou alors il y a une quatrième lettre, je vous avouerai que j'ai pas tout suivi là cette semaine, j'étais pas collé aux écrans. Toujours est-il, j'ai vu passer les infos pour Coinbase notamment qui commençait à s'intéresser à Hyperliquid et un rachat entre l'USDC de Circle et l'acquisition donc potentiellement de ce stablecoin du côté du Hyperliquid. On a eu une bougie qui a été pas mal volatile sur cette semaine, balayant entre les 38 et 47$ pour Hype. Chainlink également qui essayait de se sortir de l'ornière, mais pour l'instant ça ne passe pas. Donc vous voyez un peu la dimension en fait d'un bear market, c'est ça va vous donner un espoir plus 10, plus 20, plus 30, et derrière en quelques jours ça peut retracer quasi de l'intégralité de ce que ça vous avait donné juste avant. Donc rien ne sert de courir en général lors d'un bear market crypto du côté des altcoins. Et on clôturera donc pour l'Asie, la Chine et le Japon avec le taux de 20 ans, 30 ans et même le 10 ans. Je ne l'ai pas affiché ici pour le Japon qui pareil est en train de crever la stratosphère, 3,7 pour le 20 ans, 4 points pour le 30 ans et adios le yen carry trade, puisque je vous dézoome quand même un petit peu pour vous montrer à quel point on était bas, notamment en 2016 on était à 0,020 sur le 30 ans et entre 2019 et 2020, donc aux abords du Covid, on était à 0,1 en 2019. 2019 et mars 2020 en était à 0,22. Donc ne serait-ce que si on prend 2019, on parle de taux qui en 7 ans ont fait une progression quasi de 4000% au niveau des taux longs. Donc pour toutes les raisons citées précédemment, j'ai essayé de vous donner pas mal d'informations, de profondeur, de recouper les datas pour pas vous dire de bêtises, etc. sur les implications que peuvent avoir les obligations et les taux comme ça longs quand ils sont tous rentrés en bull run, puisque là c'est le cas de le dire, on voit que pour le coup depuis décembre 2021 on a collé à la moyenne mobile 50 et c'est exactement ce que je vous disais la dernière fois du côté de Bitcoin. Quand un actif est en bull run au cours de sa phase haussière et quand elle devient parabolique, c'est même la moyenne mobile 20 qui n'est pas passée à la baisse, mais on va dire en général quand un actif financier est en bull run, c'est exactement même ce qu'on avait vu sur le cycle encore précédent de 2015 à 2018, fin 2018, on ne perd jamais la moyenne mobile 50 semaines. À partir du moment où on repasse en dessous, hop, juillet 2018, ça ne passe pas, on la reteste par en dessous et on voit qu'à cette période, on est sorti de l'ornière à partir du moment où on la break ici autour du printemps de 2019. On a fait une première zone, on est revenu s'appuyer dessus. On était censé repartir en février-mars 2020. Le Covid, on revient tester la moyenne mobile 200, on repasse au-dessus de la 50 et ça y est, c'est reparti. Ça a fait exactement pareil par la suite du côté du cycle suivant, puisque à partir du moment où on est repassé durablement au-dessus avec cette bougie impulsive d'octobre 2023 ici, on n'est jamais repassé en dessous, mis à part la cassure de trend. On l'avait vu ensemble sur la chaîne autour de novembre 2025, en étant encore à 100 000 $, donc ça vous laissait quand même le temps de sortir par rapport au prix de 60 000 qu'on a vu par la suite. Et là, aujourd'hui, c'est exactement la même musique que ce qu'on a vu sur le cycle précédent en avril 2022. Au pire, on vient chercher la moyenne mobile 50, 90, 94 selon quand ça la tapera et on repart vers le bas et finalement le bear market n'est pas terminé. Au mieux, on repasse dessus, les 100 000, etc. On travaille 2 à 4 semaines au-dessus des 95-100 000 $ et là, on pourra considérer que le bear market est derrière nous et que le bull run, le futur bull run est en train de se préparer du côté de la première crypto-monnaie du marché. J'espère que ces informations vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair sur le marché. En guise de conclusion, je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas alarmiste de mon côté, je continue d'investir, mais en 2026, j'investis beaucoup plus intelligemment que ce que je pouvais le faire 5-6 ans au préalable. Vous me direz, d'un autre côté, c'est tout à fait normal quand on voit un petit peu la classe 2020-2021 qui a été d'une frénésie monstre pour le coup. Donc aujourd'hui, bien entendu, on est sur quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus rationnel. Et c'est pour ça que je vous invite, bien entendu, peu importe les prétentions que vous avez sur votre capital, que vous voulez démultiplier le plus rapidement possible, faites attention à vous, puisque certes on est en 2026 et l'IA semble être la révolution telle qu'escomptée et telle qu'espérée, mais si jamais ça se passe pas comme prévu type année 2000, qu'est-ce qui nous restera derrière d'un point de vue justement économique, d'un point de vue technologique? Voilà, c'est toute la question et l'enjeu du moment. C'est un enjeu qui est redoutable, qui est exaltant, mais qui peut être à double tranchant en effet quand il s'agit de nos bons vieux portefeuilles. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine, très certainement entre mardi et mercredi. On fait plus le lundi, pas faute de pas vouloir faire le lundi, mais juste voilà, entre le samedi et le lundi, la plupart du temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.